L'association Les Amis de la Santé accompagne et soutient les personnes touchées par toute forme d'addiction à travers l'écoute, l'entraide et l'accompagnement. Avec, pour le mois de janvier, une action nationale au programme. Jean-Claude et Gérard de l'association Les Amis de la Santé répondent aux questions de Chris Alessandri. Pour définir un tout petit peu l'association que vous représentez.
Alors, l'association que nous représentons, donc Les Amis de la Santé des Alpes-de-Haute-Provence, c'est une association qui a pour but d'aider, d'accompagner les personnes en difficulté avec une addiction. Alcool, cannabis, en particulier, écran, jeux, etc. Voilà. On a une permanence le jeudi de 17h30 à 19h à la salle René Cassin à Sisteron. Un jeudi sur deux.
Oui, donc au cours de ces permanences, nous proposons un groupe de parole où les gens peuvent venir s'exprimer par rapport à leurs problèmes ou parler d'autre chose. Je veux dire, c'est ouvert, ça ne parle pas que d'addiction. C'est ce que j'aime dans ces réunions.
Quand on parle de dépendance, d'addiction, dans quel domaine sommes-nous pour préciser, pour cibler peut-être un peu plus ?
L'addiction qui prédomine, j'allais dire, c'est l'alcool. D'accord ? Ici, sur 04, pour l'instant, nous avons pratiquement que des personnes alcooliques. Voilà, donc nous traitons en particulier cette addiction-là.
Reste à noter qu'il y a une addiction là qui commence quand même à monter en puissance à la consommation de cocaïne.
Cette mission que vous avez, c'est une mission donc reconnue d'utilité publique. De quelle façon eh bien, cela se concrétise ici sur le terrain, ici même sur le secteur, dans les Alpes de Haute-Provence par exemple? Est-ce qu'on peut parler d'un taux d'augmentation, de baisse par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue en général? Qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est pas facile de le quantifier. Les statistiques disent que la consommation serait en baisse au niveau national, hein, je parle là. Nous, pour l'instant, il n'y a pas de gros changements. Là, on a logiquement deux nouvelles personnes qui vont arriver donc, à la permanence du jeudi. Et donc, il y a des projets de prévention prévus donc, sur l'année 2026.
Nous n'avons pas les outils, nous, à notre niveau, pour quantifier la consommation à l'échelle locale. C'est-à-dire que nous, les gens viennent, c'est sur la base du volontariat. D'ailleurs, on essaie de faire savoir qu'on existe, et après les gens, on ne peut pas aller les chercher.
Exact, Gérard.
Votre démarche est basée sur la relation, sur l'échange, l'interactivité. Il ne faut bien sûr pas de jugement, ça on l'a bien compris. Est-ce que de la part des personnes que vous rencontrez, est-ce que vous êtes souvent confronté à ce qu'on appelle le déni, Gérard, Jean-Claude?
Oui, le déni, c'est quelque chose qui est très, très important, très présent. Les gens ont du mal à se rendre compte qu'ils ont un problème et à l'accepter. Accepter qu'on est dans le déni, si vous voulez, ça permet de commencer à faire des pas vers la guérison.
C'est ça. Disons que moi, j'ai l'habitude de dire que les portes sont souvent difficiles à pousser et les téléphones sont lourds à soulever. Mais une fois qu'ils ont franchi le pas, bon, ça aide. Sortir du déni, déjà, c'est déjà un grand pas, je vais dire, c'est un grand pas en avant quand même.
Vous parliez, Jean-Claude, de ce premier pas qu'il faut faire, c'est utile, c'est nécessaire. Mais de quelle façon, quand on est prisonnier en quelque sorte de soi-même, parce qu'on se retrouve souvent dans la solitude, pour ne pas dire toujours.
Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que nous rencontrons souvent. Les personnes sont, ont du mal à venir nous en parler. Donc, moi, je les comprends. Hein, je suis passé par là, donc je comprends que la démarche est difficile. Après, quand la confiance commence à s'installer, déjà, ça arrange déjà pas mal les choses. Mais on va dire que c'est un parcours compliqué et difficile.
Oui, compliqué et semé d'embûches parce qu'on n'est jamais réellement... c'est pas évident de se dire qu'on est guéri. Les progrès, si vous voulez, se font pas à pas. Et voilà, il faut vivre avec ça, hein, c'est pas évident.
Est-ce que l'addiction peut toucher tout le monde? Toute personne peut être, un jour ou l'autre, confrontée à l'addiction?
Tout à fait. Souvent, on entend parler de l'alcoolisme en col blanc, ou mondain, voilà. Mais tout le monde peut être concerné par ce problème. Moi, je sais que j'ai croisé un médecin cancérologue, docteur Amessen, très connu. Donc c'est des personnes, il n'y a pas de profil type pour l'addiction, que ce soit alcool, cocaïne, cannabis, etc. etc. Tout le monde peut être touché par cette maladie.
Oui, souvent, c'est pour soigner un problème qu'on a en soi. Donc ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, et bon, ce sont des problèmes qui sont, je veux dire, de source psychiatrique, parce que bon, c'est souvent le signe de mal-être.
Jean-Claude, je vous avais entendu parler lors d'une de nos rencontres de la pelote de laine qu'il faut dévider. Cette pelote de laine, elle est vraiment imagée? C'est vraiment ce que vous rencontrez au fil des rencontres que vous faites?
Alors, pour nous, ce n'est pas évident parce que la pelote de laine, c'est souvent les psys, les psychothérapeutes qui utilisent cette solution-là. Nous, c'est plutôt d'accueillir les gens, d'essayer de les mettre à l'aise pour qu'ils commencent à nous parler un petit peu de leurs problèmes et voir comment on peut les aider avant, pendant et après les soins. Ce qu'on appelle les soins, c'est cure de désintox. Voilà, notre travail, c'est essayer de les aider au mieux possible. D'accord ? Et surtout, de par notre expérience personnelle.
Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je sais que cette phrase, elle revient, et c'est une phrase qui est très représentative.
Tout à fait. Hier matin, j'étais à la clinique Saint-Barnabé à Marseille, et c'est quelque chose que j'ai employé encore hier matin pour les personnes que je rencontre sur un atelier sorti. C'est une phrase qui, dans notre jargon, j'allais dire, est très connue, mais elle se vérifie. Parce que, en fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça veut dire que, en quelque sorte, tout ce que je ne peux pas verbaliser va rester à l'intérieur et va, le terme est peut-être un petit peu galvaudé, mais va pourrir à l'intérieur, va me pourrir la vie. Et moi, j'en sais quelque chose parce que à l'époque, mon gros problème, c'est que je ne parlais pas. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on me dit que je parle trop, mais quand je sors d'une permanence ou d'un atelier, ou voilà, si j'ai pu m'exprimer, je le ressens. Encore aujourd'hui, avec toutes ces années d'abstinence, aujourd'hui, je le sens encore. Voilà.
Ça s'imprime, ça s'accumule. Au fil du temps, ça fait un gros, gros, gros paquet qu'on a sur l'estomac, qu'on a en soi. Et voilà, c'est très difficile à le sortir et à l'évacuer.
Vous êtes des personnes de contact, des personnes vraies qui savent ce qu'est la vie en général. Cet accompagnement, comment vous le vivez, aussi bien Jean-Claude que Gérard, cet accompagnement, comment personnellement vous le vivez?
J'allais dire le plus naturellement possible, c'est-à-dire rester vrai et authentique et surtout avoir beaucoup d'humilité. Parce que sans ça, bon, c'est compliqué. Et surtout avoir une certaine distance avec les personnes qu'on reçoit, parce que c'est-à-dire c'est ne pas faire l'éponge. Pas de ne pas vouloir récupérer toute la misère du monde. C'est trop lourd à porter déjà. J'ai du mal à porter déjà la sienne, bien souvent. Mais enfin bon. Voilà.
Ben écoute, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est très difficile à porter. Après, il faut qu'il y ait du répondant. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir aient envie de parler. Les gens qui viennent ont du mal à s'exprimer. Et ça, après, il faut arriver à ce qu'ils s'expriment. C'est pas évident. Et ça, effectivement, c'est pas... Je sais que pour moi, c'est difficile. On a envie de donner. On rencontre des gens, soit au niveau des ateliers à Saint-Barnabé ou quand on va au bimestriel du centre d'addictologie de Laragne. Les gens ont du mal à parler dès le départ. Souvent, les langues se délient en fin d'atelier. On voit que les gens ont mis un temps. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'est difficile.
Femme, homme, est-ce que vous remarquez une distinction dans l'addiction? Est-ce qu'il y a un comportement différent ou le profil reste le même?
Disons que les femmes ont un petit peu plus de mal à franchir le pas pour des raisons qui sont relativement faciles à comprendre, mais ça dépend des périodes. Ça fluctue, c'est pas évident, mais il y a quand même pas mal de... L'alcool au féminin, il y a eu pas mal d'émissions qui ont été diffusées à la télé ces derniers temps. Et donc ça, c'est une réalité, ça. Voilà ce qu'on peut dire.
C'est la différence qu'il y a de traitement entre un homme et une femme. Je veux dire, pourquoi les salaires des hommes sont plus élevés que ceux des femmes? Pourquoi un homme qui court, c'est un don juan? Une femme, ben, ça n'a pas le terme de don juan. Quelqu'un qui boit au masculin, c'est un bon vivant. Et pour une femme, c'est pas, ça n'existe pas une bonne vivante. Quoi. Et ça, c'est pas évident. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça changera, quand est-ce que cette différence entre hommes et femmes sera réglée. Mais pour l'instant, nous, à notre niveau, au niveau des gens qui viennent, ce n'est pas évident pour les femmes de franchir la porte. Je me souviens d'une fille qui avait demandé « Mais est-ce qu'il y a des femmes ?» Non, c'était plus facile pour elle de venir s'il y avait des femmes que s'il n'y en avait pas. Alors, elle ne serait peut-être pas venue s'il n'y avait pas eu de femmes. On va savoir.
Comme quoi, voilà, chaque personne est rencontrée est reçu d'une façon différente et avec son identité à chaque fois avec les amis de la santé. Il y a de votre part une grande part non seulement de compréhension, mais bien sûr d'écoute et d'attention. Et puis j'allais dire d'action, parce que ça c'est très important. Et justement l'action, elle arrive parce que là nous sommes sur un créneau justement où vous allez partir à la rencontre. Les personnes vont venir vous rencontrer. C'est un événement maintenant qui a pris une belle proportion, une belle ampleur.
Tout à fait. Là, on va parler donc du mois sans alcool. Disons qu'en France, nous venons de sortir du mois sans tabac. Et donc, janvier, ce qu'on appelle vulgairement le dry January, donc ça vient d'Angleterre, hein, ça a été créé en 2013 en Angleterre. Et donc, c'est arrivé chez nous. Il faut savoir que le défi du mois sans alcool consiste à ne pas boire une goutte d'alcool pendant le mois de janvier. Donc le défi commence le 1er janvier au matin et se termine le 31 janvier au soir. Alors, il faut savoir qu'en 2024, par exemple, les statistiques disent qu'il y a à peu près 4,5 millions de personnes qui ont participé donc, à ce qu'on appelle ce défi du mois sans alcool. Voilà.
Comment ça se quantifie? Où cela est lancé? Est-ce qu'il y a des milieux spécifiques? Est-ce qu'on peut le faire en solitaire, ce mois sans alcool? Comment ça se passe concrètement?
Alors, il n'y a pas de règles précises. On peut le faire seul. Décider de se lancer ce défi, de ne pas boire une goutte d'alcool pendant le mois de janvier ou de réduire drastiquement sa consommation. Mais on peut aussi donc s'inscrire sur dryjanuary.fr, taper sur moteur de recherche, vous allez trouver très facilement, s'inscrire au défi du mois de janvier et ce qui donc va donner à la fin une statistique. Les statistiques là que j'ai relevées donc sur Internet ce matin disent par exemple que 8 mois après, les effets se font encore sentir des personnes qui, pour certaines raisons, ont trouvé du mieux sur leur santé, sur leur sommeil, sur leur comportement, dans leur porte-monnaie. Tout ça rentre en ligne de compte et donc les gens peuvent tirer des conclusions de cet arrêt, voire de cette diminution de leur consommation. Je mets juste un accent sur les personnes dépendantes, de faire attention de ne pas arrêter la consommation brutalement. Parce qu'il faut savoir que l'alcool est considéré par certains organismes comme une drogue dure. C'est-à-dire que l'alcool, on peut en mourir, ne serait-ce que par les crises d'épilepsie qui peuvent être provoquées justement par un arrêt brutal de la consommation. Ça, il faut le savoir. Donc à partir de là, je dirais pour les personnes dépendantes, attention. Le mois sans alcool, ce n'est pas le bon créneau, je vais dire. Voilà.
De quelle façon lancer un appel en tant qu'association que vous représentez, donc les Amis de la Santé, pour ce mois sans alcool? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut le verbaliser?
Alors, le verbaliser, déjà, je pense qu'il y a une campagne qui va être menée. Il faut savoir que l'État ne soutient pas cette campagne. D'accord? Donc, ce sont donc les associations, les fédérations, les collectivités locales, les hôpitaux qui sont partie prenante de ce défi du mois de janvier sans alcool. La plupart des gens vont en entendre parler d'une façon ou d'une autre, d'accord ? Et chacun est libre de le faire, de ne pas le faire, ou de le faire à sa façon, de s'inscrire pour rentrer dans les statistiques, ou pas. Chacun est libre, à son libre arbitre, face à cette cause.
Oui, effectivement, ce n'est pas soutenu par les pouvoirs publics. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait des spots qui passaient à la télé sur les méfaits que pouvait donc induire l'alcool. Et maintenant, il n'y en a plus. Je me souviens, il y avait le gars qui prenait dans l'enveloppe des vacances pour aller acheter sa bouteille. Ce genre d'image, maintenant, n'existe plus à la télé. Moi, les statistiques par rapport au Dry January, je pense que c'est personnel, quoi. Je veux dire, c'est soit avec soi-même qu'on le fait. C'est pas pour entrer dans les statistiques, je ne sais pas quoi je veux dire, mais c'est pour le bien-être, pour les bienfaits que ça peut nous apporter.
Il faut savoir que le ministère de la Santé préconise de limiter sa consommation à un maximum de 10 verres par semaine, c'est-à-dire 2 verres par jour et encore pas tous les jours. C'est-à-dire que sur une semaine de 7 jours, 5 jours de consommation à 2 verres par jour, ça fait donc 10 verres par semaine, et donc 2 jours par semaine de ne pas consommer d'alcool du tout. Ceci pour préserver sa santé, parce qu'il faut savoir que l'alcool, c'est quand même la deuxième cause de mortalité en France. Voilà, ça, il faut le savoir. On n'a pas l'impression, les personnes, normales, ne sont pas toujours conscientes des risques, mais les risques sont énormes, ne serait-ce que sur les causes de mortalité, accidents de travail, etc. Les risques sont énormes.
De quelle façon vous rencontrez ? Quelle démarche est-ce qu'on peut faire ? De quelle façon est-ce qu'on peut vous parler, venir assister, écouter, peut-être simplement, sans pour autant intervenir ?
Alors, il y a des flyers dans divers endroits. Moi, par exemple, Jean-Claude, on peut me contacter sur ma ligne de téléphone personnelle au 06 41 43 01 89, par exemple. Mais je sais que dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui a trouvé un flyer chez son médecin. Donc, quelque part, les flyers qu'on a déposés peuvent être utiles.
Oui, nous avons également, on ne maîtrise pas trop, hein, mais nous avons créé un groupe Facebook où il y a la photo du flyer avec nos différents numéros de téléphone. Je sais que le site est visité. Voilà, et puis après, ben, c'est distribuer des flyers dans les endroits, dans les communes, essayer de rencontrer les personnes qui s'occupent du centre social dans les communes. Dans un premier temps, je sais que j'allais contacter un petit peu les communes qu'il y avait autour de Château-Arnoux pour parler de l'existence de notre association. Il faut persévérer, il faut insister pour rencontrer des gens et qu'on parle de nous. Voilà.
Les horaires, les lieux sur lesquels on peut vous rencontrer ?
D'abord, il faut nous appeler parce que les permanences sont un jeudi sur deux. Donc, les horaires, 17h30, 19h à la salle René Cassin, impasse du Portail, à Sisteron. Mon téléphone, donc, je le rappelle, 06 41 43 01 89. Gérard ?
Moi, c'est le 06 22 99 69 05. Et une chose qui est sûre, c'est que si on est contacté par une personne qui a besoin de nous rencontrer dans l'immédiat, on cherchera une solution pour la rencontrer le plus rapidement possible.
Un rappel du mois sans alcool, on arrête la consommation donc après les fêtes de Noël et le jour de l'an, puisque c'est un petit peu la période où on mange un peu plus, on boit un petit peu plus, etc. Donc, on arrête de consommer le 1er janvier au matin et on peut reprendre sa consommation, on va dire, à partir du 31 janvier. Les statistiques nous prouvent que cette pratique, les gens prennent conscience plus ou moins de leur consommation, diminuent leur consommation.
Donc, après le mois où la consommation de spiritueux, de vin aura monté en flèche, profitez du mois de janvier pour vous refaire une santé. Et vous pouvez prolonger aussi également le mois de février, mois de mars, etc.
Et donc, à tous les auditeurs donc, de Fréquence Mistral, passez de bonnes fêtes. Rendez-vous donc sur ce mois de janvier. Moi, je sais que personnellement, je serai inscrit donc, sur le site du mois sans alcool. Et vous ? Eh bien, peut-être.
Passez de bonnes fêtes et on peut bien manger sans forcément boire. Merci à Fréquence Mistral, merci à Chris. Bonne fête de fin d'année.
Juste une petite plaisanterie. Vous savez, il y a des années en arrière, mon médecin me disait, « Monsieur Ozette, vous buvez trop. » Aujourd'hui, on me dit, « Monsieur Ozette, aujourd'hui, vous buvez pas assez. » J'ai dit, « Faudrait savoir. » Mais de toute façon, je voulais juste terminer sur une petite note humoristique parce qu'il faut quand même boire. Parce que sinon, si on ne boit pas, on peut mourir. Mais buvez de l'eau. C'est l'eau qui désaltère, pas l'alcool. L'alcool déshydrate.